Merci pour cette invitation. Peut-être quelques mots de présentation sur l'IDRI. Donc nous, on est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui travaille depuis une grosse quinzaine d'années sur les questions de développement durable. Concrètement, on est une quarantaine de personnes basées à Sciences Po. Et on travaille alors, historiquement beaucoup sur les questions comme les négociations climat. Notre fondatrice, ancienne directrice Laurence Subiana, par exemple, était la négociatrice pour la France lors de la COP21. Ça, c'est les champs internationaux, négociations sur la biodiversité, sur l'océan, sur le climat. Et puis, on travaille aussi à des échelles plus nationales, locales, sur la transition énergétique et sur des questions urbaines de mobilité. Effectivement, je suis coordinateur d'une initiative qui s'appelle Lien numérique et écologie, qui est quelque chose de finalement assez bizarre et qui n'était pas dans nos gènes, comme je vous le disais. Voilà, nos thématiques à nous, c'est les grandes thématiques environnementales, de pollution et autres. Et en même temps, on voit bien que nous, acteurs du développement durable, qui passons notre temps à essayer de se projeter à 2030, 2050, 2100, à essayer de produire des visions du futur soutenables, souhaitables, parfois désirables, il y a quand même un gros challenger, un gros outsider face à nous, c'est le discours sur l'innovation numérique, sur le smart, sur un peu tout ça. Donc simplement, comme tout le monde, d'avoir fait face à l'émergence d'un discours très fort sur l'innovation qui allait résoudre tout un tas de problèmes, y compris les nôtres, des questions environnementales. Et bien sûr, ce discours, il a été très fort sur la ville. Et donc, on a lancé toute une série de travaux ces dernières années à cette intersection entre innovation numérique et écologie, en essayant d'avoir une approche critique et en même temps équilibrée, c'est-à-dire de prendre au sérieux des promesses et en essayant de les analyser dans leur contexte. Alors, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur l'économie collaborative, qui est une façon de voir l'innovation numérique. Et d'essayer de comprendre, ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut faire sur les politiques de déchets, la question du recyclage des biens, etc., sur la mobilité locale, j'y reviendrai. Donc en tout cas, on a fait toute cette série de travaux pour essayer à la fois de mieux comprendre pour nous, parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes de ces questions d'innovation numérique, d'essayer d'avoir des choses à dire, y compris aux acteurs publics. Et j'y reviendrai progressivement, mais donc juste pour dire que ce travail, il est un peu culminé par un travail avec le WWF, le Conseil national du numérique, Green IT et la FING, par la création d'un livre blanc, donc un ensemble de constats et de propositions sur numérique et environnement qu'on a remis en mars dernier au secrétaire d'État du numérique et de l'écologie, donc Mounir Majoubi et Brune Poirson, pour justement essayer de mettre à l'agenda politique l'idée qu'on ne peut pas parler d'un côté d'écologie et de l'autre côté d'innovation et penser que ça va aller dans le même sens naturellement et qu'il fallait essayer de faire converger ça. C'est un des objectifs d'acteurs comme l'IDRI, de mettre à l'agenda des sujets, de travailler avec un certain nombre de partenaires pour y amener. Donc, une composante importante de ce qu'on a fait et que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était sur la ville, parce que, comme je le disais, et c'est l'objet même, ce discours sur l'innovation numérique, il a été particulièrement fort quand il s'agit de la ville. Alors, ce que je vais vous présenter s'incarne... Il y a de précédents travaux, et puisqu'on en discutait juste avant, ce que je vous propose, c'est... Finalement, ce que je vous présentais, c'est pas un travail de recherche académique. L'IDRI fait une sorte de recherche-action de think tank. La FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, est une association qui fait de la prospective sur le numérique. Notre objectif, c'est d'avoir un impact sur des débats, sur des décideurs. Et quand nécessaire, de mobiliser de la recherche, quand nécessaire, de la produire nous-mêmes, etc. Et ce que je proposais à Sophie, c'était de dire, je vais à la fois vous présenter ce que nous, on a produit, ce qu'on a raconté, mais aussi d'essayer d'être un peu réflexif, pourquoi on l'a fait, et comment on voyait que ça pouvait avoir un impact ou non. Sur cette communauté qui réfléchit à la Smart City. Alors, on a commencé à travailler là-dessus en 2015 avec une série de petits travaux. Le premier, c'était de dire c'est super, la Smart City, ça nous fait des promesses incroyables. Grâce aux données, on va tout résoudre, finalement. Donc, on avait fait un travail assez bête de prendre c'est quoi les données dont on parle, qui les produit, comment, est-ce qu'elles sont nouvelles ou non, et à quoi elles servent concrètement. Une donnée d'un compteur intelligent, finalement, ça sert à quoi concrètement par rapport à un système énergétique, ou une donnée géospatiale pour faire de la planification, ben, concrètement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire qu'on ne savait pas faire avant ? Et finalement, à la fin de cette étude, de manière assez évidente, on est arrivé au fait qu'avoir plus d'informations et de meilleures données, c'est souvent utile, rarement suffisant pour prendre des meilleures décisions et surmonter les obstacles de la ville durable. Dit comme ça, c'est un peu bête, mais on voulait quand même s'en assurer. On a fait ce premier travail, on a fait un deuxième gros travail sur le crowdsourcing urbain. C'était un peu un moment d'inflexion. On parlait de Smart City, mais tout de suite, on disait elle va être forcément contributive, la Smart City. On s'est dit, bah tiens, allons regarder concrètement des outils qui permettent de faire du contributif, que ça parte des applications qui permettent aux citoyens de faire remonter des problèmes à leur municipalité de type déchets, de type voirie abîmée, à des outils plus ambitieux comme un budget participatif ou comme la production de cartographie participative dans le cadre du vélo. Et donc on avait essayé d'outiller de cette manière-là l'idée d'une ville numérique contributive avec des outils qui étaient mis en œuvre en fait par toute une série de municipalités ou d'associations d'ailleurs, dans le cas du vélo par exemple, pour essayer de donner un peu de corps à ce, ben, le numérique, oui, ça peut être contributif, et du contributif, ça peut effectivement avoir un impact sur des politiques bien concrètes de la ville. Puis on avait travaillé sur le covoiturage, notamment au niveau local, pour essayer de comprendre, après le succès foudroyant de BlaBlaCar sur le longue distance, est-ce qu'un même succès pouvait être imaginé sur du covoiturage court distance, qui a l'intérêt d'avoir un intérêt environnemental beaucoup plus important, sur lequel il y avait plein de nouvelles start-up, mais on se rendait compte que c'était très compliqué d'avoir le même niveau de succès parce que la mobilité locale, c'est un service public. Juste pour dire que, et c'est notamment sur les deux premiers travaux, on trouvait ça plutôt intéressant ce qu'on faisait, mais on se rendait bien compte qu'on était complètement déconnectés avec un débat sur la Smart City qui restait drivé par les acteurs privés, une vision très techniciste de ce qu'est la Smart City, et que malgré nos efforts, et c'est là que je prends ma casquette think tank, on voit bien qu'on n'avait aucun impact, aucune capacité, y compris même limitée à dialoguer avec des médias, des conférences, etc. Très concrètement, ça veut dire que des grandes conférences, ou des petites d'ailleurs, qui s'adressent aux maires, etc., on aura toujours les gourous, les grandes entreprises du numérique et des entreprises de consulting en numérique, qui vont répéter une sorte de discours sur la Smart City qui nécessite tout un tas d'investissements, etc. Donc, bref, tout ça qui ne nous paraît pas satisfaisant et qui ne nous paraît pas être une bonne orientation pour le numérique dans la ville. Donc on a essayé et on a décidé de prendre une autre approche, de prendre un peu un contre-pied, d'avoir un récit alternatif à cette Smart City. Et c'est beaucoup venu de notre rencontre aussi avec la FING, parce que la FING, parallèlement à l'IDRI, ben eux, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur l'innovation du numérique, mais dans une dimension son implication sociale, sociétale. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait peut-être tout intérêt à travailler ensemble, et ça s'est révélé juste au fur et à mesure. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte quand on a lancé ce travail en 2016, le point de départ, c'était de dire, bon, de toute façon, le concept de Smart City, il bat de l'aile. IBM commence à abandonner le terme et on réoriente un certain nombre de choses. Finalement, le terme lui-même, il reste, mais ce qu'il y a derrière, ça s'effiloche. Mais il faut un récit alternatif, il faut arriver à parler autrement de ce que peut être la ville numérique. Et finalement, le point de départ, c'était de se dire, on passe beaucoup de temps à discuter de colloque en colloque à cette utopie de la ville, de la Smart City, qui est cette ville bien coordonnée, bien pilotée par des données, une ville qui fonctionne mieux, qui est optimisée, dans laquelle, si je peux me permettre, ça file droit. Et pourtant, la ville numérique qu'on voit tous, à la fois dans notre vie, mais aussi celle qui fait la une des journaux, c'est une ville où c'est plutôt le bordel. C'est plutôt une ville ingouvernable parce que avec le numérique, ce sont de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Alors, on a parlé à foison de disrupteurs. De nouveaux acteurs qui ont des nouvelles données, qui ont de nouveaux pouvoirs, qui imposent de nouvelles représentations. J'imagine qu'Antoine a dû en parler ce matin, comme Waze. Et donc finalement de se dire, mais pourquoi parler d'une ville utopique, Smart City du futur qui n'arrivera pas et qui n'est d'ailleurs pas souhaitable, alors qu'il y a une ville numérique réelle qui se déploie sous nos yeux, qu'on pratique tous d'ailleurs chacun, et qui pose problème. Et donc le deuxième constat, c'était de se dire, finalement, le numérique, c'est une force de déstabilisation dans la ville telle qu'on la connaît, et notamment dès qu'on prend une perspective d'acteur public. Et c'est pas satisfaisant parce qu'il y a des enjeux de durabilité qui sont énormes. Et donc, comment faire du numérique une force pour la transition écologique, ou dit autrement, comment gouverner, du coup, le numérique dans la ville. Donc c'était comme ça qu'on a voulu approcher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait 5 cas d'études. C'est français. On a fait des entretiens à la fois côté acteurs publics, start-up et acteurs traditionnels et associations, surtout sur certains sujets, sur la mobilité, les civic tech. Alors les outils de sociabilité, donc type les plateformes d'échange entre voisins ou de sécurité entre voisins, le commerce et la mesure contributive, donc que ça soit cartographie ou pollution de l'air. Donc voilà. Donc on a travaillé sur ces 5 cas d'études et ensuite on a tiré des messages plus généraux et c'est ça que je vais vous présenter. Et toutes les cas d'études font l'objet de fiches qui sont disponibles sur le site. Alors donc ça, je le disais à l'instant, mais c'est vrai que c'est peut-être le premier résultat qui nous a frappé, c'est de se rendre compte que à l'échelle d'un chargé de mission, d'une collectivité, le numérique, c'est quand même de la déstabilisation, quoi. C'est des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles solutions tous les 4 matins qu'on vient vous proposer. Par exemple, le covoiturage sur lequel vous n'avez pas de benchmark, vous ne connaissez pas le cadre juridique, vous avez des incertitudes sur le modèle économique qui sera potentiellement à mettre en œuvre. C'est aussi un discours médiatique qui est les solutions sont du côté des start-up et puis les acteurs publics sont toujours un petit peu à la traîne, un peu lents, etc. Donc simplement qu'il y avait ce côté de déstabilisation qui était vraiment fort. Et en même temps, on voulait, c'est ce qu'on observe, mais le relativiser en disant que cette déstabilisation, parfois, on a tendance à la surestimer ou en tout cas à la voir un peu partout. Et que, en fait, il y a quand même, suivant les acteurs de l'immense Google à la petite start-up de Civic Tech qui arrive sur vos territoires, des capacités à déstabiliser la ville qui seront, dans la conduite de politique publique, qui seront très différentes. Et on a essayé, là, modestement, de se donner quelques critères qui nous aidaient à penser sur la façon dont ça pouvait déstabiliser. Le deuxième point qui était intéressant dans nos cas d'études, c'était de se rendre compte que oui, on va beaucoup parler des grands risques. Alors Uber qui pose des problèmes vis-à-vis de l'activité taxi existante, Airbnb qui va générer des problèmes sur le marché du logement, etc. Et puis même des tensions beaucoup plus petites. Et en même temps, on se rendait compte qu'il y avait des tensions qui étaient intéressantes parce qu'elles pouvaient conduire au changement ou en tout cas imaginer le changement. On a 2 exemples là-dessus, c'est par exemple sur la pollution de l'air, on a des associations régionales de mesure de la pollution de l'air, donc des acteurs institutionnels dont le rôle est de donner une mesure de référence de la pollution de l'air. Et puis plein de nouvelles start-up qui, à travers une diversité de données, créent des applications qui, avec la promesse de donner une information personnalisée aux gens, et que peut-être on va pouvoir comme ça réduire notre propre exposition. Et donc ça crée une tension parce que là, les acteurs du numérique arrivent avec des méthodologies potentiellement non scientifiques, discutables scientifiquement, différentes, des données différentes, etc. Donc on voit bien là qu'il y a une condition de déstabilisation et en même temps, les acteurs traditionnels se disent de fait, il y aura de plus en plus d'acteurs sur notre champ. On était peut-être les seuls, mais ça ne va pas durer. Donc peut-être que dans 10 ans, notre rôle n'est pas de produire la donnée de référence, mais d'être capable de mettre en discussion différentes données qui seront dans les mains de différentes personnes et qui voudront dire plein de choses différentes et que nous, on devra leur donner un sens. Et donc ça, on trouvait que c'était intéressant. Il y a un peu la même chose sur la cartographie. Entre l'Institut Géographique National, l'IGN et l'OpenStreetMap, cette démarche collaborative et citoyenne, il y a eu des tensions fortes sur c'est quoi le sens social de la cartographie. Ils se sont envoyés pas mal de fleurs pendant des années. Et puis, ils ont fini quand même par travailler ensemble autour de la base d'adresse nationale et donc à faire évoluer des choses qui n'avaient pas changé depuis un certain nombre d'années. Donc, voilà, on voulait donner un peu ces deux faces. Il y a une déstabilisation, mais elle n'est pas non plus toujours complètement négative. Alors, notamment parce qu'on avait fait beaucoup de travaux côté FING, ou nous, sur les aspects collaboratifs, citoyens, contributifs. Pour revenir aussi, c'était bien sûr les débuts de la FING, mais sur les promesses émancipatrices d'Internet. Simplement que quand on a comme ça une image de ce qui se fait, de ce qui se produit, de ce qui se fournit dans la ville numérique, le citoyen est peu présent, cette promesse, elle s'est peu vérifiée. Et la personne à laquelle on s'adresse, c'est nous en tant que consommateurs de services et de biens, notamment dans l'économie collaborative, et donc également de contributeurs. Que la vie numérique, c'est aussi beaucoup le travailleur numérique, la captation de la valeur par les plateformes, etc. Donc finalement, c'était simple. Quand on regarde tout ce qui existe, tout ce qui se fait, les discours, etc. Oui, dans les discours, le citoyen est très présent, mais dans la façon dont on met en œuvre un certain nombre d'innovations, on reste cantonné très, très largement aux consommateurs, aux contributeurs. Et il y a clairement un rééquilibrage à faire, que certaines villes font plus que d'autres. Mais il y a en tout cas des choses à faire.